Gabriele D'Annunzio, le feu, fa come natura face in foco, Dante. L'épiphanie du feu. Stelio, le cœur ne vous tremble-t-il pas un peu pour la première fois? Demanda la Foscarina avec un faible sourire en touchant la main de l'ami taciturne assise à son côté. Je vous vois pâle et pensif. Quel beau soir de triomphe pour un grand poète! D'un regard, divinement, elle recueillit dans ses yeux experts toute la beauté répandue à travers ce dernier crépuscule de septembre, de telle sorte qu'en leur vivant ciel brun, les guirlandes de lumière créées sur l'eau par la rame environnèrent les hauts anges d'or qui resplendissaient au loin sur les campaniles de Saint-Marc et de Saint-Georges Majeur. Comme toujours, continua-t-elle de sa douce voix, comme toujours, tout vous est favorable. Par un soir comme celui-ci, quelle âme pourrait demeurer close au rêve qu'il vous plaira d'évoquer par la parole? Ne sentez-vous pas déjà que la foule est disposée à recevoir votre révélation? Ainsi caressait-elle son ami délicatement. Ainsi, elle l'exaltait par une louange incessante. Mais il n'était pas possible d'imaginer une fête plus magnifique et plus insolite pour tirer de sa tour d'ivoire un poète dédaigneux tel que vous. À vous seul était réservée cette joie. Communiquer pour la première fois avec la multitude en un lieu souverain, comme cette salle du Grand Conseil, du haut de cette estrade où jadis le doge haranguait l'assemblée des patriciens, avec le paradis du Tintoret pour fond et sur votre tête la gloire du Véronèse. Stelio Effrena la regarda au fond des prunelles. « Oh, vous voulez m'enivrer ? » dit-il avec un rire soudain. « C'est la coupe que l'on offre aux condamnés, s'acheminant vers le dernier supplice. » « Eh bien, à mon avis, cela est vrai, je vous confesse que mon cœur tremble un peu. » Le bruit d'une acclamation s'éleva du traghetto de San Gregorio, résonna dans le grand canal, se répercuta sur les disques de porphyre et de serpentin qui ornent le palais des Dario, inclinés comme une courtisane décrépite sous la pompe de ses colliers. La barque royale passait. « Voilà celle de vos auditrices que l'étiquette vous prescrit d'enguirlander dans l'exorde, » dit la femme ingénieuse à flatter, faisant allusion à la reine. « Vous avez, je crois, dans un de vos premiers livres, confessé votre respect, votre goût pour le cérémonial. Une de vos imaginations les plus extraordinaires est celle qui a pour motif une journée de Charles II, roi d'Espagne. » Quand la barque passa près de la gondole, ils saluèrent tous les deux. La reine, reconnaissant le poète de Perséphone et l'illustre tragédienne, se retourna par un mouvement de curiosité instinctive. Toute blonde et rose, toute fraîche dans la lumière de ce grand sourire inextinguible qui s'épanchait comme une source parmi les pâles méandres des dentelles de Burano. Elle avait à son côté cette Andriana Duodo qui, dans la petite île industrieuse, cultivait le jardin de fil où renaissaient merveilleusement ses fleurs anciennes. Mais ne vous semble-t-il pas que les sourires de ces deux femmes sont jumeaux ? Dit la Foscarina en regardant l'onde bouillonner dans le sillage de la poupe fuyante où semblait se prolonger le reflet de cette clarté double. « Mais la comtesse a une âme ingénue et magnifique, une de ces âmes vénitiennes, si rares, qui ont gardé le coloris des vieilles toiles, » dit Stelio sur un ton de gratitude. « J'ai une dévotion profonde pour ces mains sensitives. Ces mains-là frémissent de plaisir lorsqu'elles touchent une belle dentelle ou un beau velours, et elles s'y attardent avec une grâce presque honteuse d'être une volupté. » Un jour que je l'accompagnais à travers les salles de l'Académie, elle s'arrêta devant le massacre des innocents du premier Bonifacio. Vous vous rappelez sans doute le vers de la femme abattue que le soldat d'Hérode se dispose à tuer. C'est une chose inoubliable. Elle s'arrêta longtemps, ayant diffusé par toute sa personne la joie de la sensation pleine et parfaite. Puis elle me dit: Allons-nous-en, mais conduisez-moi, Ephrena. Il faut que je laisse mes yeux sur cette robe. Je ne peux plus voir autre chose. Ah, cher ami, ne souriez pas. En parlant ainsi, elle était ingénue et sincère. Elle avait réellement laissé ses yeux sur ce morceau de toile dont l'art, avec un peu de couleur, a fait le centre d'un mystère infiniment joyeux. Et c'était vraiment une aveugle que je conduisais, tout saisi de respect pour cette âme privilégiée, où la vertu de la couleur avait suscité un enthousiasme capable d'abolir pour un temps les moindres traces de la vie ordinaire et d'empêcher toute autre communication. Comment appelez-vous cela? Remplir le calice jusqu'au bord, ce me semble. Voilà justement ce que je voudrais faire ce soir, si je n'étais pas découragé. Une clameur nouvelle, plus forte et plus longue, s'éleva d'entre les deux tutélaires colonnes de granit, pendant que la barque royale abordait à la piazzetta noire d'un peuple. Quand le bruit cessait, la foule épaisse avait des remous, et les galeries du palais des Doges s'emplissaient d'une rumeur confuse, pareille au bourdonnement illusoire qui anime les volutes des conques marines. Puis, tout à coup, la clameur rejaillissait dans l'air limpide, montait se briser contre la légère forêt marmoréenne, franchissait les têtes des hautes statues, atteignait les pinacles et les croix et se dispersait dans le lointain crépusculaire. Puis, c'était une autre pause, pendant laquelle, imperturbable, dominant l'agitation inférieure, continuait l'harmonie multiple des architectures sacrées et profanes, où couraient comme une agile mélodie les modulations ioniques de la bibliothèque, et s'élançait comme un cri mystique la cime de la tour nue. Et cette musique silencieuse des lignes immobiles était si puissante qu'elle créait le fantôme presque visible d'une vie plus belle et plus riche, superposée au spectacle de la multitude inquiète. Celle-ci sentait la divinité de l'heure, et lorsqu'elle acclamait cette forme nouvelle de la royauté abordant au rivage antique, cette fraîche reine blonde qui illuminait un inextinguible sourire, peut-être exhalait-elle son obscure aspiration à dépasser l'étroitesse de la vie vulgaire et à recueillir les dons de l'éternelle poésie épars sur les pierres et sur les eaux. L'âme avide et forte des ancêtres, saluant au retour les triomphateurs de la mer, se réveillait confusément chez ces hommes opprimés par l'ennui et par le labeur des longs jours médiocres. Et elle se rappelait l'ondulation des grands étendards de bataille qui se repliaient comme les ailes de la victoire après le vol, ou leurs claquements sonores qui insultaient jadis aux hôtes fugitives inapaisées. Connaissez-vous Perdita? Demanda soudain Stelio. Connaissez-vous au monde un autre lieu qui, autant que Venise, possède à certaines heures la vertu de stimuler l'énergie de la vie humaine par l'exaltation de tous les désirs jusqu'à la fièvre? Connaissez-vous une plus redoutable tentatrice? Celle qu'il appelait Perdita, le visage penché comme pour se recueillir, ne fit aucune réponse. Mais elle sentit passer sous ses nerfs l'indéfinissable frisson que lui donnait la voix de son jeune ami, quand cette voix devenait révélatrice d'une âme véhémente et passionnée, vers qui elle était attirée par un amour et une terreur sans limite. La paix, l'oubli. Est-ce que vous les retrouvez là-bas, au fond de votre canal désert, lorsque vous rentrez épuisée et brûlante pour avoir respiré l'haleine des foules qu'un de vos gestes rend frénétique? Moi, lorsque je vogue sur cette eau morte, Je sens ma vie se multiplier avec une rapidité vertigineuse. Et à certaines heures, il me semble que mes pensées s'enflamment comme à l'approche du délire. Mais la force et la flamme sont en vous, Stelio, dit la Foscarina presque humblement, sans relever les yeux. Il se tut, absorbé. Dans son esprit s'engendraient des images et des musiques impétueuses, comme par la vertu d'une brusque fécondation. Et sous le flot inattendu de cette abondance, il éprouvait un délice. C'était encore l'heure vespérale que, dans un de ses livres, il avait appelé l'heure du Titien, parce que toutes les choses y resplendissent finalement d'un or très riche, comme les figures nues de cet ouvrier prestigieux, et illuminent le ciel plutôt qu'elles n'en reçoivent la lumière. De sa propre ombre glauque émergeait l'église octogonale que Baldassare Longhena emprunta aux songes de Polyphile, avec sa coupole, avec ses volutes, avec ses statues, avec ses balustres, étranges et somptueuses, comme un temple neptunien imitant les torsions des formes marines, blanche d'une blancheur de nacre, où la diffusion de l'humidité saline semblait créer dans les creux de la pierre une fraîcheur gemmée qui leur donnait l'apparence de valves perlières entr'ouvertes sur les eaux natales. Perdita, dit le poète, qui, à voir ainsi tout s'animer autour de lui selon sa pensée, sentait courir par tout son être une sorte de félicité intellectuelle. Perdita, ne vous semble-t-il pas que nous suivons le convoi de l'été, de la saison morte? Elle gît dans la barque funèbre, vêtue d'or comme une dogaresse, comme une redana, une morosina ou une soranza du siècle vermeil. Et son cortège la conduit vers l'île de Murano, où quelques maîtres du feu l'enfermera dans un coffre de verre opalin, afin que, submergée au fond de la lagune, elle puisse du moins, à travers ses paupières diaphanes, contempler les souples jeux des algues avec l'illusion d'avoir toujours autour de son corps la vie de sa chevelure voluptueuse, en attendant que le soleil la rappelle. Un sourire spontané se répandit sur le visage de la Foscarina, coulant de ses yeux qui avaient eu la réelle vision de la belle morte. En effet, par l'image et par le rythme, cette représentation poétique inattendue exprimait à merveille le sentiment dont étaient imprégnées les apparences environnantes. De même que le lait bleuâtre de l'opale est plein de feux cachés, de même, l'eau immobile du grand bassin recelait une splendeur secrète que réveillaient les heurts de la rame. Derrière la rigide forêt des vaisseaux fixés sur leurs ancres, Saint-Georges majeur apparaissait sous la forme d'une vaste galère rose, la proue tournée vers la fortune qui l'attirait du haut de sa sphère d'or. Dans l'intervalle s'ouvrait le canal de la Giudecca, pareil à une paisible embouchure où les navires chargés, descendus par les voies des fleuves, semblaient apporter, avec leur cargaison d'arbres coupés et fendus, l'esprit des forêts inclinées sur les courants lointains. Et du môle où, sur le double prodige des portiques ouverts au souffle populaire, s'élevait la blanche et rouge muraille close pour enserrer la somme des volontés dominatrices, le quai des Esclavons allongeait doucement son arc vers les jardins et vers les îles, comme pour conduire au repos des formes naturelles la pensée exaltée par les sublimes symboles de l'art. Et pour favoriser l'évocation de l'automne, passait une file de barques débordantes de fruits, semblables à de grandes corbeilles qui nageraient, répandant le parfum des vergers insulaires sur ses ondes, où se mirait le perpétuel feuillage des ogives et des chapiteaux. Connaissez-vous, Perdita, reprit Stelio, en regardant avec un plaisir ingénu les figues violettes, les blonds raisins accumulés, non sans harmonie, depuis la poupe jusqu'à la proue. Connaissez-vous une particularité gracieuse de la chronique des doges? La Dogaress, pour les frais de ses vêtements solennels, jouissait de certains privilèges sur l'impôt des fruits. Ce détail ne vous réjouit pas? Les fruits des îles l'habillaient d'or et la couronnaient de perles. Pomone payant tribut à Arachné, voilà une allégorie que le Véronèse pouvait peindre à la voûte du vestiaire. Pour moi, quand je me figure la noble dame dressée sur ses hautes socles gemmées, je suis heureux de penser qu'elle porte quelque chose d'agreste et de frais dans les plis de son lourd brocart. Le tribut des fruits. Quelle saveur acquiert ainsi son opulence. Eh bien, mon ami, figurez-vous que ces raisins et ces figues du nouvel automne acquittent le prix de la robe d'or où est enveloppée la saison morte. Quelle fantaisie délicieuse, Tellio, dit la Foscarina, qui retrouva sa jeunesse pour sourire, étonnée comme une enfant à laquelle on montrerait un livre historié. Mais qui donc vous surnomma un jour l'imaginifique? Ah, les images! S'écria le poète envahi par une chaleur féconde. À Venise, de même qu'il est impossible de sentir autrement que selon des modes musicaux, de même il est impossible de penser autrement que par images. Elles viennent à nous de toutes parts, innombrables et diverses, plus réelles et plus vivantes que les personnes qui nous heurtent du coude dans la ruelle obscure. En nous penchant, nous pouvons scruter la profondeur de leurs pupilles suiveuses et deviner au pli de leurs lèvres les paroles qu'elles vont nous dire. Les unes sont tyranniques comme d'impérieuses maîtresses et nous tiennent longuement sous le joug de leur puissance. Les autres sont enfermées dans un voile comme les vierges ou emmaillotées étroitement comme les nourrissons. Et celui-là seul qui sait déchirer leur enveloppe peut les amener à la vie parfaite. Les dernières sont peut-être les plus nombreuses. Ce matin, au réveil, mon âme en était déjà toute pleine. Elle ressemblait à un bel arbre chargé de chrysalides. Il s'arrêta et se mit à rire. « Si ces images s'ouvrent toutes ce soir, ajouta-t-il, je suis sauvé. Bref, si elles restent closes, je suis perdu. » « Perdu ? » dit la Foscarina en le regardant au visage, avec des yeux si pleins de confiance qu'il en éprouva une gratitude infinie. « Non, Stelio, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous êtes sûr de vous, toujours. Vous portez vos destinées entre vos mains. Votre mère, je crois, n'a jamais rien dû craindre pour vous, même dans les plus graves circonstances. N'est-il pas vrai ? L'orgueil seul fait trembler votre cœur. Ah, cher ami, combien je vous aime et combien je vous suis reconnaissant pour ce que vous me dites là, confessa-t-il avec candeur en lui prenant une main. Vous ne faites qu'alimenter mon orgueil et me donner l'illusion d'avoir acquis déjà ces vertus auxquelles j'aspire sans cesse. Il me semble parfois que vous avez le pouvoir de conférer une qualité divine aux choses qui naissent de mon âme et de faire qu'à mes propres yeux elles apparaissent distantes et adorables. Parfois, vous renouvelez dans mon esprit l'émerveillement de ce statuaire qui, ayant transporté le soir dans le temple les simulacres des dieux encore chauds de son travail et pour ainsi dire encore adhérents à son pouce plastique, le matin d'après, les revit dressés sur leurs piédestaux, enveloppés dans un nuage d'aromates et respirant la divinité par tous les pores de la sourde matière en laquelle il les avait modelés de ses mains périssables. Vous n'entrez jamais dans mon âme, cher ami, que pour y accomplir de telles exaltations. Aussi, chaque fois que ma bonne chance m'accorde la saveur, valeur d'être auprès de vous, il me semble alors que vous êtes nécessaire à ma vie. Et toutefois, pendant nos trop longues séparations, je puis vivre sans vous et vous pouvez vivre sans moi. quoique nous sachions tous deux quelle splendeur pourrait naître de la parfaite alliance de nos deux vies. De sorte que, sachant tout le prix de ce que vous me donnez, et plus encore de ce que vous pourriez me donner, je vous considère comme perdu pour moi, et par ce nom dont il me plaît de vous appeler, Perdita, je veux exprimer à la fois cette conviction et ce regret. Il s'interrompit parce qu'il avait senti vibrer la main qu'il tenait encore dans la sienne. Et, après une pause, « Quand je vous nomme Perdita, reprit-il d'une voix plus basse, je m'imagine que vous voyez mon désir s'avancer avec un fer mortel planté dans son flanc qui palpite. » Elle souffrait une peine bien connue à entendre ces belles paroles couler des lèvres de son ami avec une spontanéité qui les démontrait sincères. Une fois de plus, elle éprouvait cette inquiétude et cette crainte qu'elle-même ne savait pas définir. C'était comme si elle perdait le sentiment de sa vie propre et qu'elle se trouvât transportée dans une sorte de vie fictive, intense et hallucinante, où sa respiration devenait difficile. Attirée dans cette atmosphère aussi ardente que le foyer d'une forge, elle se sentait capable de toutes les transfigurations qu'il plairait à cet animateur d'opérer sur elle pour satisfaire son continuel besoin de beauté et de poésie. Elle comprenait que, dans cet esprit génial, son image était de même nature que celle de la saison des feintes, enfermée sous l'enveloppe de verre, évidente jusqu'à paraître tangible. Et elle fut assaillie par l'envie puérile de se pencher vers les yeux du poète, comme vers un miroir, pour y contempler son visage véritable. Ce qui rendait sa peine plus lourde, c'était de reconnaître une vague analogie entre ce sentiment inquiet et l'anxiété qui s'emparait d'elle au moment où elle entrait dans la fiction scénique pour y incarner quelque sublime créature de l'art. En effet, ne l'entraînait-il pas à vivre dans cette même zone de vie supérieure? Et pour la rendre capable d'y figurer sans se ressouvenir de sa personne quotidienne, ne la couvrait-il pas de splendides déguisements? Mais, tandis qu'il ne lui était donné à elle de se soutenir à un tel degré d'intensité que par un pénible effort, elle voyait l'autre y persister aisément, comme dans sa naturelle manière d'être, et jouir sans fin d'un monde prodigieux qu'il renouvelait par un acte de continuelle création. Il était parvenu à réaliser en lui-même la concordance intime de l'art avec la vie, et à retrouver ainsi au fond de son être une source d'harmonies intarissables. Il était parvenu à perpétuer dans son esprit, sans lacune, l'état mystérieux qui engendre l'œuvre de beauté, et par suite à transformer soudainement en types idéaux toutes les figures passagères de sa changeante existence. C'était pour célébrer cette conquête qu'il avait mis ses paroles dans la bouche d'un de ses héros. J'assiste en moi-même à la continuelle genèse d'une vie supérieure où toutes les apparences se métamorphosent comme par la vertu d'un miroir magique. Doué d'une extraordinaire faculté verbale, il arrivait à traduire instantanément par les mots jusqu'aux faits les plus compliqués de sa sensibilité avec une exactitude et un relief si vifs que parfois, sitôt exprimés, rendu objectif par la propriété isolatrice du style, il semblait ne plus lui appartenir. Sa voix limpide et pénétrante, qui, pour ainsi dire, dessinait d'un contour précis la figure musicale de chaque mot, donnait plus de relief encore à cette singulière qualité de sa parole. Aussi, tous ceux qui l'entendaient pour la première fois éprouvaient-ils un sentiment ambigu, mêlé d'admiration et d'aversion parce qu'il se manifestait lui-même sous des formes si fortement marquées qu'elle semblait résulter d'une volonté constante d'établir entre lui et les étrangers une différence profonde et infranchissable. Mais, comme sa sensibilité égalait son intelligence, il était facile à tous ceux qu'il fréquentait et l'aimait de recevoir à travers le cristal de son verbe la chaleur de son âme passionnée et véhémente. Ceux-là savaient combien était illimité son pouvoir de sentir et de rêver, et de quelle combustion sortaient les belles images en lesquelles il avait coutume de convertir la substance de sa vie intérieure. Elle le savait aussi, celle qu'il appelait Perdita. Et de même que l'âme pieuse attend du Seigneur un secours surnaturel pour opérer son salut, de même elle semblait attendre qu'il la mît enfin dans l'état de grâce nécessaire pour s'exalter et se maintenir en un feu de ce genre, vers lequel la poussait le désir de brûler et de se consumer, par désespoir d'avoir perdu jusqu'au dernier vestige de sa jeunesse et par effroi de se retrouver seul dans un désert de cendres. « C'est vous, Stelio ?» dit-elle avec ce faible sourire qui voilait sa pensée en dégageant doucement sa main de celle de son ami. « C'est vous, maintenant, Stelio, qui voulez m'enivrer ?»« Regardez !» s'écria-t-elle pour rompre le charme en montrant du doigt une barque chargée qui venait lentement à leur rencontre. « Regardez vos grenades !» Mais sa voix était émue. Alors, dans le rêve crépusculaire, sur l'eau délicatement verte et argentée comme les jeunes filles feuilles du saule, ils regardèrent passer le bateau débordant de ses fruits emblématiques qui font penser à des choses riches et cachées, à des écrins en cuir vermeil surmontés de la couronne d'un roi donateur, les uns clos, les autres entr'ouverts, sur les gemmes agglomérées. À mi-voix, la tragédienne rappela les paroles adressées par Hadès à Perséphone dans le drame sacré au moment où la fille de Déméter goûte la grenade fatale. « Quand tu cueilleras le colchique en fleurs sur la molle prairie terrestre, ah, Perdita, comme vous savez répandre l'ombre sur votre voix !» interrompit le poète, qui sentait une nuit harmonieuse enténébrer les syllabes de ses vers. « Comme vous savez devenir nocturne, inansi sera !» Vous souvient-il de la scène où Perséphone est sur le point de s'abîmer dans les rêves, tandis que gémit le cœur des océanides ? Son visage est pareil au vôtre, quand le vôtre s'obscurcit. Rigide dans son péplum couvert de safran, elle penche en arrière la tête couronnée, et il semble que la nuit coule en sa chair devenue exsangue et s'amasse au-dessous du menton, dans la cavité des yeux, autour des narines, lui donnant l'aspect d'un sombre masque tragique. « C'est votre masque, Perdita !» Quand je composais mon mystère, la mémoire que j'avais de vous m'a aidé à évoquer la personne divine. Ce petit ruban de velours safrané que vous portez habituellement au cou m'a indiqué la couleur convenable pour le péplum de Perséphone. Et un soir, dans votre maison, comme je prenais congé de vous sur le seuil d'une pièce où les lampes n'étaient pas encore allumées, un soir agité du dernier automne, vous en souvient-il, vous avez réussi, par un seul de vos gestes, à mettre dans la pleine lumière de mon âme la créature qui s'y trouvait encore gisante et enveloppée. Et puis, sans vous douter de cette nativité subite, vous êtes rentré dans l'intime obscurité de votre érèbe. Ah, j'étais sûr d'entendre vos sanglots. Et cependant, il courait en moi un torrent de joie indomptable. Jamais, je crois, je ne vous ai raconté ces choses. J'aurais dû vous consacrer mon œuvre comme à une lucide idéale. » Elle souffrait sous le regard de l'animateur, elle souffrait de ce masque qu'il admirait sur son visage et de cette joie qu'elle sentait sourdre en lui continuellement comme une fontaine perpétuelle. Elle souffrait elle-même tout entière, de la mobilité qu'avaient ses traits, de la vertu mimique étrange que possédaient les muscles de sa face, et de cet art involontaire qui réglait la signification de tous ses gestes, et de cette ombre expressive que, tant de fois au théâtre, dans une minute de silence anxieux, elle avait su étendre sur sa face comme un voile de douleur, et aussi de cette ombre dont s'emplissaient maintenant les sillons creusés par l'âge dans sa chair qui n'était plus jeune. Elle souffrait cruellement par cette main qu'elle adorait, par cette main si délicate et si noble qui, même avec un don ou avec une caresse, pouvait lui faire tant de mal. « Ne croyez-vous pas, Perdita, reprit Stello après une pause, en s'abandonnant au cours lucide et tortueux de sa pensée qui, tel un fleuve, dont les méandres forment, enserrent et nourrissent les îles dans la vallée, laissait isolé dans son esprit d'obscurs espaces, où il savait bien qu'à l'heure opportune il trouverait quelque richesse nouvelle. Ne croyez-vous pas à l'occulte bienfaisance des signes ? Bon, je ne parle ni de science astrale, ni de signes horoscopiques. Ce que je veux dire, c'est que, à la façon de ceux qui croient subir l'influence d'une planète, nous pouvons créer une idéale correspondance entre notre âme et un objet terrestre, de telle sorte que cet objet, s'imprégnant peu à peu de notre essence et magnifié par notre illusion, devienne à la fin pour nous le symbole représentatif de nos destinées inconnues et revêt un aspect de mystère quand il nous apparaît en certaines conjonctures de notre vie. Voilà le secret pour rendre une partie de sa fraîcheur primitive à notre âme un peu desséchée. Je connais par expérience l'effet bienfaisant que nous procure l'intense communion avec une chose terrestre. Il faut que de temps en autre notre âme se fasse pareille à la madriade pour sentir circuler en elle la fraîche énergie de l'arbre auquel sa vie est unie. Vous avez déjà compris que je fais allusion aux paroles prononcées par vous tout à l'heure quand passait la barque. Ces mêmes pensées, vous les avez exprimées avec une brièveté obscure lorsque vous avez dit « Regardez vos grenades ». Pour vous et pour ceux qui m'aiment, les grenades ne pourront jamais être que miennes. Pour vous et pour eux, l'idée de ma personne est indissolublement liée à ce fruit que j'ai choisi pour emblème et chargé de significations idéales plus nombreuses que ces grains. Si j'eusse vécu au temps où les hommes désensevelissaient les marbres grecs et retrouvaient sous terre les racines humides encore des faibles antiques, nul peintre n'aurait pu me représenter sur la toile sans placer dans ma main la pomme punique. Séparer de ma personne ce symbole aurait semblé à l'artiste ingénu l'amputation d'une vivante partie de moi-même. Car dans son imagination païenne, le fruit aurait paru attaché à mon bras comme à sa branche naturelle. Et en somme, il n'aurait pas conçu de mon être une idée autre que celle qu'il devait avoir d'Hyacinthe ou de Narcisse ou de Cyparis, qui précisément devait tour à tour lui apparaître sous l'aspect d'une plante et sous la figure d'un jeune homme. Mais il existe encore à notre époque des esprits agiles et colorés qui comprennent tout le sens et goûtent toute la saveur de mon invention. Vous-même, Perdita, ne vous plaisiez-vous pas à cultiver dans votre jardin ce grenadier, ce bel arbuste, effrénien, pour me voir fleurir et fructifier chaque été? Une de vos lettres, vraiment ailée comme une messagère divine, me décrivez la cérémonie gracieuse où vous l'avez ornée de colliers, le jour même où vous reçûtes le premier exemplaire de Perséphone. Donc, pour vous et pour ceux qui m'aiment, j'ai véritablement renouvelé un mythe ancien lorsque, d'une manière idéale, je me suis assimilé à une forme de la nature éternelle. C'est pourquoi, quand je serai mort, Et puisse la nature m'accorder de me manifester tout entier dans mon œuvre avant que je meure. Mes disciples m'honoreront sous l'espèce de cet arbuste. Et dans l'acuité de la feuille, dans la flamme de la fleur et dans le trésor interne du fruit couronné, ils voudront reconnaître certaines qualités de mon art. Et par cette feuille, par cette fleur et par ce fruit, comme par autant d'enseignements posthumes du maître, leurs esprits, dans les œuvres mêmes, seront amenés à cette acuité, à cette flamme et à cette opulence enclose. Vous découvrez maintenant, Perdita, ce qui fait la réelle bienfaisance du signe. Moi-même, par affinité, je suis amené à me développer conformément au génie magnifique de la plante en laquelle il m'a plu de figurer mes aspirations vers une vie riche et ardente. Cette image végétale de moi-même suffit à m'assurer que mes énergies se déploient toujours selon la nature pour atteindre naturellement la fin qui leur est assignée. Natura così mi dispone, ainsi nature me dispose. Telle est la vincienne épigraphe que je plaçais au frontispice de mon premier livre. Eh bien, le grenadier fleurissant et fructifiant me répète continuellement cette simple parole. Nous n'obéissons qu'aux lois gravées dans notre substance, et par ce moyen nous demeurons intacts au milieu des dissolutions sans nombre, dans une unité et dans une plénitude qui font notre joie. Il n'existe nul désaccord entre mon art et ma vie. Il parlait avec un fluide abandon, car il voyait l'esprit de la femme attentive se faire concave comme un calice pour recevoir cette onde et voulait le remplir jusqu'au bord. Une félicité spirituelle de plus en plus limpide se répandait en lui, jointe à une conscience vague de l'action mystérieuse par où son intelligence se préparait à l'effort prochain. De temps à autre, comme dans un éclair, tandis qu'il se penchait vers cet ami seul et entendait la rame mesurer le silence du large estuaire, il entrevoyait l'image de la foule au visage innombrable, pressée dans la salle profonde. Et un tremblement rapide lui agitait le cœur. « Ces choses très singulières, Perdita, » dit-il en regardant les lointaines opales, où la marée descendante commençait à découvrir les bas-fonds noirâtres. Combien facilement le hasard vient en aide à notre fantaisie par le caractère mystérieux qu'il prête au concours de certaines apparences en rapport avec une fin imaginée par nous. Je ne comprends pas pourquoi les poètes s'indignent aujourd'hui contre la vulgarité de l'époque présente et se plaignent d'être nés trop tard ou trop tôt. J'ai la conviction que tout homme d'intelligence, aujourd'hui comme toujours, a le pouvoir de se créer dans la vie sa belle fable. Dans le tourbillon confus de la vie, il faut regarder avec ce même esprit imaginatif avec lequel Vinci conseillait à ses disciples d'observer les taches des murailles, la cendre du foyer, les nuages, la fange et autres objets de cette sorte, pour y trouver des inventions admirables et une infinité de choses. Inventioni mirabilissime et infinite cose. De même, ajoutait Léonard, vous trouverez dans le son des cloches tous les noms et tous les vocables qu'il vous plaira d'imaginer. Ce maître savait bien que le hasard, comme l'a démontré jadis l'éponge d'appel, est toujours ami de l'artiste, ingénieux, moi par exemple. Je suis sans cesse étonné par la facilité et la grâce que met le hasard à seconder le développement harmonique de mes inventions. Ne croyez-vous pas que le noir Hadès ait fait manger à son épouse les 7 grains de grenade pour me fournir le sujet d'un chef-d'œuvre? Il s'interrompit par un de ces éclats de rire juvéniles qui révélaient si clairement la persistance de la joie native au fond de son être. « Voyez, Perdita, reprit-il en riant. Voyez si je ne dis pas vrai. L'autre année, dans les premiers jours d'octobre, je fus invité à Burano par Don Andrianana Duodo. Nous passâmes la matinée dans le jardin de Phil, et l'après-midi, nous allâmes visiter Torcello. Comme en ce moment-là, j'avais commencé à vivre dans le mythe de Perséphone, et que déjà mon œuvre se formait secrètement au fond de mon esprit, il me semblait que je naviguais sur les eaux du Styx et que j'arrivais au pays des Mânes. Jamais je n'avais éprouvé un plus pur et plus doux sentiment de la mort. Et ce sentiment me rendait si léger que j'aurais pu, sans laisser nulle trace de mes pas, cheminer sur la prairie d'Asphodel. L'air était humide, tiède et cendré, et les canaux serpentaient parmi les bancs recouverts d'herbes pâles. Vous connaissez Torcello, peut-être, par le soleil. Mais de temps à autre, quelqu'un parlait, discutait, déclamait dans la barque de Caron. Le bruit de la louange me rappela de mon trépas. Francesco Delizzo, faisant allusion à ma personne, regrettait qu'un tel artiste, si magnifiquement sensuel, oh, je répète ses propres termes, fut contraint de vivre à l'écart, loin de la foule obtuse et hostile, et de célébrer les fêtes des sons, des couleurs et des formes dans le palais de son rêve solitaire. Il s'abandonnait à un élan lyrique, rappelait la vie splendide et joyeuse des peintres vénitiens, la saveur populaire qui les portait comme un tourbillon jusqu'aux fêtes de la gloire, la beauté, la force et l'allégresse qu'ils multipliaient autour d'eux en les reproduisant par d'innombrables images sur les voûtes concaves et sur les hautes murailles. Alors Donna Andrianna dit « Eh bien, je promets solennellement que Stelio Efrenna aura sa fête triomphale à Venise. » Là, Dogarès avait parlé. Au même instant, sur la rive gasse et verdâtre, je vis un grenadier lourd de fruits qui, comme une hallucinante apparition, rompait la tristesse infinie de ces lieux. Donna Orsetta Gontarini, qui était assise à mon côté, poussa un cri de joie et tendit ses deux mains, aussi impatientes que ses lèvres. Il n'y a rien qui me plaise tant que l'expression franche et forte du désir. J'adore les grenades, s'écria-t-elle. Et on sentait que déjà elle en avait sur la langue la fine saveur rigolette. Elle était enfantine comme son nom archaïque. Ce cri me toucha, mais Andrea Contarini semblait désapprouver sévèrement la vivacité de sa femme. Voilà, ce me semble un Hadès qui a peu de foi en la vertu mnémonique des sept grains appliqués au mariage légitime. Cependant, les rameurs s'étaient émus aussi, et ils abordaient au rivage, de sorte que je pus sauter le premier sur l'herbe et me mis à dépouiller l'arbre fraternel. C'était bien le cas de répéter, avec une bouche païenne, les paroles de la scène. Prenez et mangez, car ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que vous en semble, Perdita? N'allez pas croire au moins que j'invente, je dis la pure vérité. Elle se laissait séduire à ce jeu libre et élégant, où il essayait l'agilité de son esprit et la facilité de sa parole. Il y avait en lui quelque chose d'ondoyant, de mobile et de vigoureux, qui suggérait à cette femme la double et diverse image de la flamme et de l'eau. Or, continua-t-il, Donna Andrianna a tenu sa promesse. Guidée par ce goût héréditaire de la magnificence qui se conserve en elle si parfaitement, elle a préparé une véritable fête ducale dans le palais des Doges, à l'imitation de celle que l'on y célébrait vers la fin du XVIe siècle. L'idée lui est venue de tirer de l'oubli l'Ariane de Marcello et de la faire soupirer en ce même lieu où le Tintoret a peint la fille de Minos recevant d'Aphrodite la couronne d'étoiles. Ne reconnaissez-vous pas dans la beauté de cette idée la femme dont les chers yeux furent pris par l'ineffable robe verte? Ajoutez que cette représentation musicale dans la salle du Grand Conseil un précédent historique. Dans cette même salle, en 1573, fut jouée une composition mythologique de Cornelio Frangipani avec musique de Claudio Merulo en l'honneur du roi très chrétien Henri. Avouez, Perdita, que mon érudition vous étonne. Ah, si vous saviez tout ce que j'ai recueilli là-dessus, je vous lirai mon discours un jour où vous aurez mérité quelque châtiment grave. Mais comment, vous ne le prononcerez pas ce soir, à la fête ? Demanda la Foscarina, surprise, craignant déjà qu'avec son insouciance bien connue des engagements, il n'eût résolu de tromper l'attente publique. Il comprit l'inquiétude de son ami et voulut s'en amuser. « Oh, ce soir, répondit-il avec une tranquille assurance, j'irai prendre un sorbet dans votre jardin et me délecter à la vue de l'arbuste paré d'orfèvrerie sous les étoiles. » « Oh, Stelio, qu'allez-vous faire ? » s'écria-t-elle en se levant à demi. Dans cette parole et dans ce geste, il avait un si vif regret et en même temps une si étrange évocation de la foule déçue et irritée que cela le troubla. L'image du formidable monstre aux mille visages humains lui réapparut parmi l'or et la pourpre sombre de la salle immense, et il en pressentit sur sa personne le regard fixe et la chaude haleine, et il mesura soudain le péril qu'il avait résolu d'affronter en se fiant à la seule inspiration du moment, et il éprouva l'horreur de la soudaine obscurité mentale, du soudain vertige. « Assurez-vous, dit-il, j'ai voulu plaisanter. J'irai ad bestias, et j'irai sans armes. N'avez-vous pas tout à l'heure vu réapparaître le cygne ? Croyez-vous qu'après le miracle de Torcello, il soit réparu en vain ? Une fois de plus, le ciel est venu m'avertir que la seule attitude qui me convienne est celle à laquelle nature me dispose. Oh, vous le savez, mon ami, je ne sais bien parler que de moi-même. Donc il faut que là, du trône des doges, je ne parle à l'auditoire que de ma chère âme, sous le voile d'une allégorie séduisante, avec le prestige de quelques belles cadences. Et je me propose de parler extempore, pourvu que, du haut de son paradis, l'esprit enflammé du Tintoret m'en communique la fougue et la grâce. Le risque me tente, mais en quelle singulière erreur étais-je tombé, Perdita ? Lorsque la Dogaresse m'annonça la fête et me pria d'en faire les honneurs, j'entrepris de composer un discours d'apparat, une véritable prose de cérémonie, ample et solennelle comme une de ces grandes robes qu'enferment les vitrines du musée Corrère, non sans faire dans l'exorde une profonde génuflexion à l'adresse de la reine, non sans tresser une pompeuse guirlande pour la tête de la sérénissime Andriana Duondo. Et, curieusement, durant plusieurs jours, je me complus à vivre en communion d'esprit avec un patricien de la Venise du XVIe siècle, orné de toutes les bonnes lettres, ornato di tutte le terre, comme le cardinal Bembo, membre de l'Académie des Vranici ou des Adorai, sorte haute assidue des jardins de Murano et des collines d'Assolo. Je sentais, cela est certain, une sorte de correspondance entre le tour de mes périodes et les massifs corniches d'or qui encadrent les peintures au plafond de la grande salle. Mais hélas, lorsque j'arrivais hier matin à Venise, et qu'en passant par le grand canal, je baignais ma fatigue dans l'ombre humide et transparente où le marbre exhalait encore son esprit nocturne, j'eus l'impression que mes papiers valaient beaucoup moins que les algues mortes roulées par le flux. Et ils me semblèrent aussi étrangers à ma personne que les trivers de Celio Magno et les fables marines d'Anton Maria Gonsalvi, citées et commentées par moi. Que faire alors ? Autour de lui, d'un regard, il explora le ciel et l'eau comme pour y découvrir une invisible présence, pour y reconnaître un fantôme survenu. Une lueur jaunâtre se répandait vers les dunes solitaires qui se dessinaient en linéaments minces comme les veines sombres des agates. En arrière, vers la Salute, le ciel était parsemé de légères vapeurs, roses et violettes, qui le faisaient ressembler à une mer glauque peuplée de méduses. Des jardins tout proches descendaient les effluves du feuillage saturé de lumière et de chaleur, si lourds qu'ils semblaient visibles et flottant sur l'eau bronzée comme des huiles aromatiques. « Sentez-vous l'automne, Perdita ?» demanda-t-il à son ami absorbé d'une voix pénétrante. De nouveau élut la vision de la saison morte enfermée sous l'enveloppe de verre opalin et submergé dans la prairie des algues. « Oui, en moi, » répondit-elle avec un sourire de mélancolie. « Ah, vous ne l'avez pas vu hier, lorsqu'il est descendu sur la ville. Hier, au coucher du soleil, où étiez-vous ?»«
Dans un jardin de la Giudecca. » »«
Moi, j'étais ici, au quai des Esclavons. » Quand des yeux humains ont contemplé un pareil spectacle de beauté et de joie, ne pensez-vous pas que les paupières devraient s'abaisser et se scier pour jamais? Oh, ce soir, Perdita, je voudrais parler de ces choses vues intérieurement. Je voudrais célébrer en moi-même les noces de Venise et de l'automne, à peu près dans la tonalité dont usa le Tintoret lorsqu'il peignit les noces d'Ariane et de Bacchus pour la salle de l'anticollège. Azur, pourpre et or. Hier, soudainement, s'est épanoui dans mon âme un germe ancien de poésie. Ma mémoire a retrouvé un fragment de ce poème oublié que j'avais commencé d'écrire, in nona rima, ici même à Venise, il y a plusieurs années, la première fois que j'y suis venu par mer, en un septembre de ma prime jeunesse. Ce poème avait justement pour titre l'allégorie de l'automne, et le dieu y était représenté non plus enguirlandé de pampres, mais couronné de gemmes, comme un prince du Véronèse, enflammé de passion et de volupté, au moment où il approche de la villa Anadyomène, aux bras de marbre et aux mille ceintures vertes. L'idée, alors, n'avait pas atteint le degré d'intensité qu'il lui fallait pour entrer dans la vie de l'art, et instinctivement, je renonçais à l'effort de la manifester tout entière. Mais comme, dans un esprit actif, pas plus que dans un terrain fertile, aucune semence ne se perd, cette idée me revient aujourd'hui, à l'heure opportune, et réclame son expression avec une sorte d'urgence. Quelle fatalité mystérieuse et juste gouverne le monde mental! Ce premier germe, il était nécessaire de le respecter pour le sentir aujourd'hui, développer en moi sa vertu multipliée. Vinci, qui a prolongé son regard dans toutes les choses, a certainement voulu signifier une vérité de ce genre par sa fable du grain de mil, disant à la fourmi: si tu me fais le grand plaisir de me laisser contenter mon envie de naître, je te rendrai sans moi-même. » Admirez quelle touche de grâce avaient ses doigts capables de briser le fer. Ah, il reste bien toujours le maître incomparable. Comment ferais-je pour l'oublier et me donner aux Vénitiens? Brusquement, s'éteignit l'ironie enjouée que, dans sa dernière phrase, il s'adressait à lui-même, et il parut se replier tout entier sur sa pensée. La tête basse, le corps contracté par une sorte de correspondance avec l'extrême tension de son esprit, il tâchait maintenant de découvrir quelques-unes des analogies secrètes qui devaient relier les images multiples et diverses entrevues en de rapides éclairs. Il tâchait maintenant de déterminer quelques-unes des lignes maîtresses suivant lesquelles devait se développer la nouvelle création. Tel était son effort qu'on voyait sous la peau trembler les muscles de son visage. Et la tragédienne, en le regardant, éprouvait à son tour un malaise un peu semblable à celui qu'elle eût éprouvé si, en sa présence, il eût voulu tendre violemment la corde d'un arc gigantesque. Et elle le savait très loin, étranger, indifférent à tout ce qui n'était pas sa pensée propre. « Oh, il est déjà tard, on le rapproche, il faut rentrer !» dit-il, secoué par un sursaut, comme poursuivi par l'anxiété. Car il avait vu réapparaître le formidable monstre aux mille visages humains remplissant le large espace de la salle sonore. « Oh, il faut que je regagne mon hôtel assez tôt pour m'habiller !» Puis, par un retour de sa vanité juvénile, il pensa aux yeux des femmes inconnues qui le verraient ce soir-là pour la première fois. « À l'hôtel d'Agnelli !» ordonna la Foscarina au rameur. Et tandis que le fer dentelé de la proue évoluait sur l'eau avec une lente oscillation pareille à un mouvement animal, ils ressentirent l'un et l'autre une angoisse différente, mais également douloureuse, à l'instant où, laissant derrière eux le silence infini de l'estuaire envahi déjà par l'ombre et la mort, ils retournaient vers la ville magnifique et tentatrice, dont les canaux, comme les veines d'une femme voluptueuse, commençaient à s'embraser de la fièvre nocturne.